C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 8 décembre, bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, vous dire ce matin d'abord que le ciel demeure nuageux, ça fait quoi, le 2 jours et un peu plus qu'on a des températures grises. Le dégagement va se faire, mais beaucoup plus tard, et on prévoyait tard ce matin, puis là c'est comme repoussé vers l'après-midi, avec des températures à la baisse pour atteindre 1 degré ce matin. Et au total, on va avoir 1 ou 2 degrés, puis un peu de soleil pour finir la journée avant que la noirceur s'empare des lieux. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de moins 8. Et puis demain, vendredi, c'est du soleil, belle journée, autour de moins 3 degrés. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de neige de prévu avant probablement au moins une semaine. Avant de plonger dans l'actualité, vous venez de l'entendre, c'était hier la journée de publication des sondages radio, sondages Numéris, et qui confirme une fois de plus que le 98.5 est la station la plus écoutée à Montréal, la plus écoutée au Québec, et la station la plus écoutée au Canada, et que l'émission que vous écoutez actuellement est l'émission aussi numéro 1. À chaque fois, je cherche les mots pour vous remercier. J'essaie de trouver une façon originale de vous dire à quel point c'est touchant que cette confiance renouvelée depuis si longtemps me fait beaucoup de bien, d'une part, mais aussi me rend, je dirais, très conscient de la responsabilité qu'on a comme animateur de radio quand on fait une matinale comme celle-là, à la fois de parler d'informations avec vous, de brasser un peu les choses, puis aussi de s'amuser pendant les 4h30 de l'émission avec une équipe qui est formidable. Une équipe, évidemment, que vous entendez, les collaborateurs, mais aussi les gens de l'équipe de recherche, la production. Alors, encore une fois, merci beaucoup de votre confiance et on va continuer à ramer, à travailler, puis essayer de faire passer des matins agréables, même quand parfois pas toujours facile, notamment dans les bouchons de circulation. La nouvelle qui fait jaser ce matin, c'est évidemment Céline Dion. Pour la première fois, Céline Dion parle de ses problèmes de santé. C'est une vidéo qu'elle a diffusée par le biais des réseaux sociaux, notamment Instagram, où elle dit qu'elle a des problèmes de santé sérieux.
J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps. Et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais « stiff person syndrome », qui atteint environ une personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
Alors, très émouvant, vous en conviendrez. On commence à avoir un peu d'informations sur cette maladie qui est rare, qui a été découverte en 1956 et qui touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc très rare, mais particulièrement les femmes qui malheureusement sont touchées par ce trouble neurologique qui se caractérise par une raideur progressive des muscles, notamment ceux du tronc, ce qui amène des spasmes musculaires. Et on sait que Céline Dion a souvent parlé de ses spasmes qui la faisaient souffrir, de telle sorte qu'elle doit annuler sa tournée en Europe, encore une fois. Il n'y a pas de date comme telle pour la reprise. Elle dit qu'elle reporte les spectacles du printemps 2023 à 2024 et elle annule également 8 spectacles prévus à l'été 2023. Est-ce qu'il y aura des spectacles à l'automne 2023? Ça reste à préciser. Mais on va essayer de se renseigner aussi ce matin sur cette maladie, sur ce que ça veut dire. Alors voilà pour l'état de santé de Céline Dion. Deuxième nouvelle ce matin. Pas parce que c'est une nouvelle en soi importante, mais c'est que ça devient complètement fou, là. Ce que bouffent les employés d'un hôpital ou d'un centre de soins de longue durée qui se traduit par des mesures disciplinaires. On a eu l'histoire de la toast. On a eu également l'histoire du beigne que TVA nous a sorti. Suspension d'un mois. Tu sais, je me dis, ça se peut pas que ça soit un beigne qui amène autant de journées de suspension. Il doit y avoir d'autres choses dans le dossier, mais bon. Là, ce matin, la presse nous dit que nous avons le cas d'une préposée aux bénéficiaires, encore une fois, en Montérégie-Est, alors que les gens de la Montérégie-Est nous ont dit, ben vous savez, c'est un cas isolé, c'est une personne aux ressources humaines qui a peut-être fait du zèle, puis on est en train de revoir, puis nous sommes en état de choc, puis on a même offert aux employés perturbés de recourir aux services d'aide, un peu poussé fort. Bref, cette préposée a été suspendue pendant 5 jours durant la pandémie, dit la presse, pour avoir mangé une pointe de pizza qui allait être jetée. D'autres suspensions auraient été autorisées pour avoir l'intention de prendre un jus, avoir bu un lait au chocolat ou avoir mangé des frites. Ça commence à être fou raide, là. Alors, est-ce que ce serait trop demandé d'avoir le portrait juste? Est-ce qu'on suspend quelqu'un qui a mangé une pointe de pizza qui s'en allait à la poubelle? Puis est-ce qu'on considère que ça, c'est du vol de nourriture? Est-ce qu'on est capable de nous dire si le dossier des employés concernés est beaucoup plus étoffé? Parce que là, on sait que ça part de dénonciations d'employés jaloux. Une qui se présente comme étant l'espèce de la police de nourriture qui l'aurait vu prendre la pizza qui, je le rappelle, là, la pointe s'en allait à la poubelle. J'ai parlé avec Mme Mélissa Paradis-Lapointe, qui est la directrice adjointe du SAPA. Le SAPA de bon sens, là, c'est le soutien, programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées et responsable de ce centre d'hébergement à Longueuil. Et la question qu'on lui a posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a d'autres cas? Parce qu'elle disait que c'était une erreur, là, puis elle n'en revenait pas. À votre connaissance, y en a-tu d'autres qui ont été suspendus pour avoir volé des toasts, avoir pris un café, un jus d'orange, ou si c'est un cas unique?
Ben, en termes de seulement un élément comme ça, je vous dirais que c'est un cas unique. Les suspensions, c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Par contre, des suspensions pour du vol, effectivement, des choses répétitives pour lesquelles on a avisé, nommé et ça se reproduit, okay, ça existe et il y a jurisprudence.
Moi, si je veux savoir quelque chose de simple. Puis ce qui est tannant, c'est que quand on pose des questions simples, on a des réponses compliquées. Puis, tu sais, le style de réponse pour garder, là, pas mentir, mais pas dire la vérité au complet non plus. Alors, est-ce qu'on a affaire à des employés récidivistes? J'ai demandé à Mme Paradis-Lapointe si dans l'histoire de la toast, est-ce que c'est une voleuse de toast récidiviste? Réponse, non. Puis là, on nous explique que le 3 jours n'a pas d'allure, que c'est quelqu'un dans l'organigramme qui a décidé que... Mais là, pour la pointe de pizza, puis le jus, puis c'est complètement fou. Et là, ça amène toutes sortes de réactions, puis j'ai reçu pas mal de courriels, je vous le dis depuis le début, mais c'est un message qui circule sur les réseaux sociaux, et c'est une infirmière, 14 ans de service, et elle dit « j'ai au moins 100 toasts à mon actif ». J'ai trouvé ça bien bon. Et plusieurs centaines de patientes reconnaissantes de mes bons soins. Et ça, ça compte. Et elle parle d'elle en disant que avoir quand même mangé des toasts sur le bord du poste des infirmières, elle travaille en maternité, en obstétrique, et ça fait 2 heures, par exemple, que tu fais pousser la patiente, c'est un premier bébé, tu te donnes, tu respires avec elle, tu t'assures que le père tombe pas dans les pommes, t'as la bouche sèche, mais tu joues la cheerleader pour que le bébé descende et que les parents vivent le moment de leur vie. Tu sors 3 minutes top chrono pendant qu'un collègue qui a probablement pas soupé vient te remplacer. Tu remplis ta gourde, tu prends une toast au beurre de peanut par survie, pas par caprice culinaire, mais par survie parce que t'es en train de travailler. Là, ça commence à faire. Quand tu refuses de nourrir celle qui n'a pas le temps de se nourrir pour prendre soin de ton réseau en décrépitude, t'es clairement dans ton bureau de gestionnaire. Puis toi, t'as eu le temps, le gestionnaire, de luncher avec ta gang de bureau pendant 1 heure. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Mais pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que c'est comme une espèce... C'est une radiographie des relations de travail dans le réseau de la santé. Et on se demande pourquoi c'est difficile d'attirer du monde. Et là, je suis pas en train de trancher entre les syndicats et l'employeur. Le constat, c'est un climat pourri qui n'invite personne à retourner. Je sais que le ministre, M. Dubé, veut qu'on soit positif. Puis qu'il faut surtout pas faire peur au monde pour pas que ces gens-là renoncent à aller prêter main forte, parce qu'on en a besoin, on le sait. Mais en même temps, il y a une prise de conscience à faire de gestionnaire. Je veux pas les noms, je veux savoir si on a affaire à des voleurs en série, des gens qui se nourrissent à l'hôpital, puis qui vident les frigos, puis qui privent les bénéficiaires de bouffe, ou si ce sont des cas isolés, un événement, puis des fonds-fonds zélés. Facile à poser comme question. Mais ça a l'air bien compliqué pour avoir des réponses de ce côté-là. Parlons du rapport de la VG. Guylaine Leclerc qui sera avec nous tantôt. Deux volets intéressants. D'abord, ce qui se passe en éducation et ce qui s'est passé durant la pandémie. Le constat de la VG, c'est que le ministère de l'Éducation ne sait pas encore aujourd'hui quels ont été les impacts de la fermeture de classe. Dans certains cas, de l'enseignement à distance, du tutorat, et quel sera l'effet de ces mesures sur le résultat scolaire et le niveau d'enfants, d'élèves qui seront diplômés au terme du processus. Bref, Québec a dépensé des millions, puis quand on leur dit à l'éducation, OK, mais avez-vous mesuré les effets de ces programmes? Réponse, non. Et même mon ami Bernard commence à taper du pied, promet de les gosser, pour reprendre son expression, parce qu'il n'en vient pas, qu'on n'ait pas ce portrait-là. Donc, on le sait, il y avait cette volonté de Québec de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Ça, c'était clair depuis le début de la pandémie. Puis on peut comprendre, là, si on veut être bon joueur, qu'il a fallu s'ajuster. Que même avant la pandémie, on n'était pas prêt pour du téléenseignement, en tout cas pas de façon aussi intense. Mais depuis ce temps, comment le tutorat a-t-il été, je parle des enveloppes budgétaires, saupoudré à travers le Québec? La VG semble nous dire qu'on n'a pas tenu compte vraiment des besoins des élèves, puis qu'on n'est pas capable d'avoir l'info, puis on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Je vais lui en parler. L'autre aspect, c'est Hydro-Québec. Madame Leclerc constate qu'en 2021, les pannes attribuables aux équipements défaillants ont touché environ 2 millions de clients québécois. Qu'il y a plusieurs lacunes, que la fiabilité du service de distribution électrique présente une baisse marquée. Le plan de réduction des pannes n'a été que partiellement mis en œuvre. La durée moyenne des pannes par client a augmenté de 63 % entre 2012 et 2021. Et semble-t-il qu'on n'a pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment, du vieillissement des équipements et donc de procéder à du remplacement. Hydro-Québec a fait, avec ses équipements pour la distribution de l'électricité, ce qu'on a fait avec nos écoles, on laisse ça aller, comme on a fait avec les routes, on attend que ça se dégrade, puis que là, on est obligé d'investir massivement puis rapidement pour récupérer le temps perdu. Et Hydro-Québec a répondu que ils ont quand même augmenté les budgets pour couper les branches d'arbres, neutraliser la végétation, installer également des infrastructures pour éviter les pannes majeures, mais c'est quand même un constat sévère de la part de Mme Leclerc. Taux d'intérêt, alors c'était prévu, augmentation, un demi-point. Est-ce que c'est la dernière hausse? Pour la première fois, la Banque du Canada dit pas qu'il y a d'autres hausses nécessaires. Dans le communiqué, que j'ai lu trois fois pour être sûr de bien comprendre hier, là, la Banque du Canada dit on augmente d'un demi-point et on verra l'effet. C'est subtil, là. Ils sont pas en train de dire qu'ils le feront pas, mais il faut attendre à la prochaine annonce au mois de janvier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent des courriels en disant voici l'impact, et c'était avant même l'augmentation d'hier, là. Mais on parle facilement, pour des gens qui ont des hypothèques, d'avoir comme deux choix, puis même dans certains cas, pas le choix. Ça veut dire d'augmenter le paiement ou allonger le terme. Mais il y a des limites. puis dans certains cas, vous ne faites actuellement que rembourser l'intérêt, pas de capital. Vous allez pouvoir le faire quand un jour les taux vont baisser, mais ça veut dire que l'hypothèque de votre maison peut facilement représenter quelques centaines de dollars de plus par mois. Puis là, je tiens pas compte des marges de crédit, je tiens pas compte des prêts auto. Il y a des gens qui, il y a un monsieur qui m'a envoyé là cette espèce de budget là, il y en a facilement pour 7 à 800 dollars de plus par mois. Et l'autre constat qu'il fait, c'est qu'il faut pas qu'il arrive de malheur là, tu sais, genre faut que tu fasses faire des travaux d'urgence, t'as pas les liquidités. Puis ta marge de crédit est pas mal élevée, puis le taux est aussi très élevé. Fait que c'est sûr que le début de 2023 sera pas nécessairement facile pour beaucoup de consommateurs. Maintenant, je vais vous parler de cette action collective, ce recours là qui est déposé contre l'entreprise québécoise qui fait le jeu, c'est Epic Games là, Fortnite. Quand je dis québécoise, c'est une entreprise qui est installée donc au Québec, à Montréal, depuis 2018. Et c'est un jeu très très populaire. Si vous le connaissez pas là, je peux vous dire que c'est probablement un des jeux qui a fait le plus de vagues. Et ce sont trois parents qui affirment que le jeu a été conçu pour créer une dépendance comparable à la cigarette et même pire, à l'héroïne ou la cocaïne. Les symptômes de cette dépendance. Et là, le juge autorise le recours. Ça ne veut pas dire que c'est une victoire pour les parents, ça veut dire qu'il y aura débat devant le tribunal. Les symptômes de cette dépendance, migraines, douleurs dorsales, cervical, des manquements à l'hygiène de base. On va traduire ça par tu te laves pas, puis t'arrêtes pas de jouer, puis tu dors pas, puis tu manges mal, puis surtout tu fais pas de sport, puis tu fais pas d'exercice, tu as aussi de la difficulté peut-être dans tes rapports avec les autres. Et plusieurs joueurs auraient développé ce type de problème. Puis là, on donne des cas de quelqu'un qui a joué 7781 parties en 2 ans. Un autre qui a commencé à jouer, qui a participé à 6923 parties pour 59 954 minutes de jeu, c'est-à-dire à peu près 42 jours complets. C'est débile, là. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui écoutent ce matin qui ont été peut-être accros au jeu ou encore comme parents qui ont dû à vivre avec ça. Et aussi, on va parler avec la ministre Isabelle Charest concernant, il y a peut-être un lien à faire, là, sur le niveau de forme physique des jeunes Québécois quand on compare. C'était dans la presse hier, là, espèce de rapport dans les années 80 puis aujourd'hui. Les jeunes sont pas en forme et ça laisse entrevoir pour l'avenir des problèmes de santé quand même importants. La COP15, peu de choses à dire, si ce n'est que Antonio Guterres en remet une autre couche, c'est le secrétaire général des Nations Unies, et parle, lui, de faire une espèce de traité de paix avec la nature, nous réconcilier et surtout prendre des mesures pour protéger des espaces. Par exemple, des lacs, des rivières, des milieux humides, des milieux boisés. Et puis, je vais terminer avec le système de justice, parce qu'il y a 2 ou 3 nouvelles ce matin qui sont importantes. D'abord, la presse nous dit qu'il y a des milliers de poursuites, près de 5 000, des poursuites pénales qui ont été abandonnées en raison d'une erreur dans l'envoi de documentation. En gros, il y a toutes sortes de documents, mais ça peut être, je vais prendre un cas, là, photoradar. Fait que vous recevez ça, puis normalement, vous devez signer comme quoi ça a été reçu, l'amende. Et pendant la pandémie, et même si le bureau des affaires pénales le savait, ça, ce bureau-là représente 275 organismes du gouvernement, c'était la politique de Postes Canada, tu sais, je cogne, puis pour pas être en contact avec les gens, je vous demande rien, puis je dépose ça dans votre porte, arrangez-vous. Sauf que c'est pas légalement valide. Alors, ils ont été obligés de laisser tomber une série d'amendes puis une série de procédures de cette façon-là. Et sérieusement, là, c'est quand même énorme, ce qui fait que 4694 poursuites qui ont été abandonnées parce que les délais pour recommencer étaient écoulés. Deuxième élément, c'est une entrevue qui va être présentée à Enquête de Radio-Canada avec Frédéric Gaudreau, qui est le commissaire à l'UPAC, qui fait bien attention, mais qui revient sur les problèmes de l'UPAC, là. On n'en parle pas beaucoup de l'UPAC de ce temps-là, je suppose que vous avez remarqué. À part l'abandon des dossiers, là, c'est assez tranquille. Et ce que M. Gaudreau dit, c'est que, en raison des délais puis là, on peut penser à mâchurer. Ça étire les enquêtes et ça se finit en queue de poisson. Et il pose la question, est-ce qu'il y a une justice pour les riches? Puis est-ce qu'il y a une justice pour les pauvres? Avec les pauvres, t'as peut-être pas les moyens de multiplier les requêtes. Puis c'est pas toujours la faute de la défense, là. Ils se sont enfargés dans leur bottine également, l'UPAC. Alors, vous regarderez ça ce soir. Puis on le sait qu'il y a toujours ce conflit entre le ministre Jolin Barrette puis la juge en chef de la Cour du Québec, Mme Rondeau, sur le nombre de juges et l'horaire de travail de la semaine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Je le dis souvent, le travail de la vérificatrice générale du Québec est essentiel. Essentiel aux citoyens pour comprendre comment les machines fonctionnent. Et ce matin, il y a deux exemples. Un exemple qui concerne le ministère de l'Éducation, sa performance sur le suivi des élèves avec la pandémie, la fermeture des classes, l'enseignement à distance, le programme de tutorat et aussi les infrastructures de distribution d'électricité par Hydro-Québec. Guylaine Leclerc est avec nous. Madame Leclerc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je vais commencer par le ministère de l'Éducation. Je lisais votre rapport hier et ce que vous dites, là, puis vous me corrigerez si c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas capable de voir et de porter un jugement sur la façon dont les opérations du ministère se sont faites, donc durant la pandémie, avec le téléenseignement, le tutorat, parce que les données n'existent pas. Et si on n'est pas capable de savoir quelle a été la performance, on met en danger le parcours scolaire d'un paquet d'enfants.
Ce que nous reprochons, c'est de ne pas avoir l'information pour connaître l'impact sur les élèves d'avoir de l'enseignement à distance. On sait que, on se souvient, hein, le 13 mars 2020, ma voix résonne, c'est un petit peu déstabilisant. En mars 2020, on a fermé les écoles. Après ça, ça a été seulement qu'au 6 mai 2020, avant qu'on émette un décret qui fasse en sorte qu'on puisse faire de l'école à distance. Malgré ce décret-là, certaines écoles, certains centres de services scolaires ont donné de l'école à distance, d'autres n'en ont pas donné. Et à titre d'exemple, des écoles secondaires n'ont tout simplement pas réouvert. Dans d'autres cas, ils ont exigé d'avoir 50 minutes par jour d'école à distance. Donc, il n'y avait pas une uniformisation. Ce n'est juste avant septembre 2020, donc 3 semaines avant la réouverture des écoles, que le ministère a émis des directives au centre de services scolaires exigeant un certain nombre d'heures minimales qui se devaient d'être enseignées aux élèves s'ils étaient dans l'enseignement à distance. Donc ça, c'est le premier élément. Ils ont tardé avant de donner des guides au centre des services scolaires. Autre élément que nous reprochons, c'est le fait qu'ils n'ont pas l'information sur l'impact qu'a eu sur les élèves d'avoir eu de l'enseignement à distance. On sait que les élèves qui ont des difficultés, des risques de décrochage important, il y a eu un impact important lié à l'enseignement à distance.
Mais attendez, je vous arrête là. Pourquoi ils n'ont pas cette information-là?
En novembre 2020, le ministre a envoyé un mémoire au Conseil des ministres mentionnant qu'il y aurait un examen ministériel en juin 2021. Mais finalement, en janvier 2021, on a décidé qu'il n'y en aurait pas. Et donc, dès janvier, on a décidé qu'en juin 2021, il n'y en aurait pas. Ce qui fait que ça a privé le ministère d'informations fort importantes sur l'état de situation des centres de services scolaires à travers le Québec et de pouvoir identifier les endroits où il y avait une problématique particulière, soit à cause du milieu où ils sont, soit à cause du type de matière. Est-ce que c'est en lecture qu'ils ont plus de difficultés? Est-ce que c'est en mathématiques qu'ils ont plus de difficultés? Mais le ministère a investi 88 millions de dollars pour le tutorat, donc pour aider les élèves. Mais comme ils n'avaient pas ce portrait-là de l'ensemble du Québec sur l'état de situation, bien, il a réparti ce 88 millions de dollars-là à travers les centres de services scolaires en fonction des effectifs et au sein des centres de services scolaires, mais eux, ils l'ont réparti de façon variable d'un centre de service à l'autre.
OK, mais ça veut dire, Mme Leclerc, en pratique, que des enfants qui auraient eu besoin du tutorat parce qu'ils ont été peut-être plus touchés par... en fait, ils ont subi plus d'effets de cet enseignement à distance puis des conditions de la pandémie. Mais comme on ne savait pas quelle était leur performance scolaire, ben ils sont passés à côté du gâteau, là.
C'est tout à fait ça. On n'a pas l'information. On n'est pas en mesure de savoir, premièrement, dans quelle matière, dans quelle région, où cet argent-là aurait dû être investi, puis comment on peut aider ces élèves-là.
Est-ce qu'on va finir par le savoir, vous pensez?
Bien, on l'espère. On a fait des recommandations à cet effet-là. On a dit, entre autres, bien, faites un bilan de la situation. Comment vous considérez que ça s'est déroulé? Quels sont les éléments à mettre en œuvre pour améliorer si jamais il arrive une autre situation pandémique? Puis aussi, assurez-vous de répartir les budgets en fonction des mesures de rattrapage scolaire qui tient compte des besoins des élèves. C'est entre autres les recommandations qu'on a faites et nous suivons les recommandations de façon régulière. Alors, on va éventuellement faire un rapport sur le suivi de ces recommandations-là.
OK. Parlons de Hydro-Québec. Vous avez examiné les performances de Hydro-Québec et notamment, là, en fait, précisément sur la distribution d'électricité puis la fiabilité du service. Et là, ce que vous dites, c'est qu'en 2021, les pannes attribuables aux équipements défaillants ont touché 2 millions d'abonnés?
Oui. Pour comprendre qu'Hydro-Québec, il y a trois grands blocs, là. Il y a la production, donc c'est les barrages, il y a le transport, qui sont les pylônes, et la distribution, c'est l'électricité qui se rend dans nos maisons ou dans les industries. Donc, nous, ce qu'on a audité, c'est la partie distribution. Ce qu'on a constaté, c'est que la fiabilité du service de distribution d'Hydro-Québec a continuellement marqué une baisse au cours des dernières années. Par exemple, de 2012 à 2021, il y a eu une hausse du nombre de pannes de 16 % et la durée des pannes a augmenté de 63 %. Donc, les pannes sont de plus en plus longues. On a de plus en plus de pannes et elles sont de plus en plus longues. Et pour contrer ça, Hydro-Québec a mis en place ce qu'ils appellent un plan de réduction des pannes, mais seulement qu'un quart de ce qui était prévu initialement un quart des travaux prévus initialement n'ont pas été réalisés et les coûts supplémentaires qu'ils avaient planifiés pour ce plan de réduction des pannes, c'était 800 millions à l'origine et au 31 décembre, ils l'ont ramené à 1,14 milliard. Ce qui fait que ce que nous disons, ben, le plan de réduction des pannes ben, devrait être mieux ficelé pour s'assurer qu'on a un plan qui va s'assurer effectivement qu'on va être en mesure de corriger le tir.
OK, je vous pose deux, trois questions. Est-ce que l'augmentation du nombre de pannes peut être attribuable, par exemple, à des phénomènes météo un peu plus extrêmes, donc des vents plus importants, des endroits, je pense à Gatineau, par exemple, où on a eu des contre-coups, des changements climatiques. Est-ce que ça peut expliquer en partie pourquoi il y a des augmentations comme ça du nombre de pannes puis de la durée de la panne?
Les chiffres que je vous ai donnés ne tiennent pas compte des effets météorologiques majeurs. Okay. Donc, ce dont vous venez de parler. Par contre, le fait qu'on a de plus en plus de tempêtes, c'est certain que ça a un impact sur les actifs vieillissants ou le manque de maintenance des équipements de Hydro-Québec. Ça, c'est certain que ça a un impact pour le futur parce que si nos actifs sont vieillissants, qu'on réussit pas à faire tout l'entretien préventif qu'on se doit de faire, compte tenu qu'il y a des effets météorologiques majeurs qui sont importants, mais ça va avoir un impact.
Ça veut dire qu'on a un réseau à risque.
Bien, Hydro-Québec n'a pas pu nous confirmer que ses pratiques actuelles pour corriger la situation de ses actifs vieillissants avaient qui pouvaient corriger le tir. entre autres à cause de sa capacité de travail actuelle et de la formation du personnel qui est nécessaire pour, par exemple, montage de lignes. Si je vous donne un exemple, le nombre de poteaux à remplacer va passer de 7 000 à 30 000 en 2035. Et le nombre de transformateurs aériens à remplacer annuellement va passer de 8 500 en 2019 à 14 000 en 2030. Alors, ça, c'est important que le plan de Hydro-Québec, ben, qu'il soit en mesure et qu'il nous rassure à l'effet que ça va effectivement corriger le tir.
Une grosse commande, puis il y a tout le programme entourant la végétation, là, les branches d'arbres et les feuilles là, qui peuvent justement provoquer, quand il y a du vent, des pannes d'électricité qui affectent des coins un peu plus isolés. Mais c'est une méchante commande pour Hydro-Québec, ça?
Oui, le volet végétation, on l'a enlevé de notre portée d'audit. Mais effectivement, le fait qu'il y a l'impact de la végétation, encore une fois, sur l'équipement qui est en manque de maintenance, mais ça a un impact encore plus important.
Ça, la question, vous pouvez peut-être pas me répondre, mais j'allais dire le laisser aller avec l'équipement, là. Puis on peut penser aux écoles au Québec, c'est pourquoi? Parce que Hydro-Québec voulait présenter un meilleur bilan financier, on n'a pas assez investi. C'est comme si au Québec, on attend que tout soit tout croche, à terre ou sur le bord de l'aide pour commencer à mettre de l'argent.
Ben, j'ai une partie de réponse,
allez-y donc.
Mais elle est pas totale. Hydro-Québec a des lacunes dans la qualité des données qu'il a. Alors, par exemple, le remplacement des poteaux, la moitié des poteaux qui ont été remplacés en 2009 et 2021 n'ont pas été notés. Pour connaître l'âge des transformateurs, on se doit de monter dans le poteau pour aller voir l'étiquette sur le transformateur pour voir son âge. Donc, les données... la qualité des données chez Hydro-Québec sont déficientes. Alors, soit qu'elles sont erronées ou soit qu'elles sont incomplètes. Alors, ça, c'est une partie de l'information.
Madame Leclerc, toujours intéressant. Vous le savez, votre job est importante. Merci d'avoir pris ce moment-là avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Guylaine Leclerc est la vérificatrice générale du Québec. Je sais pas si vous êtes comme moi ce matin, là. Mais ils savent pas le poteau, ils savent pas l'âge du transformateur. Mon ami Bernard Drainville a pas des chiffres des centres des services scolaires. On n'a pas l'info. Le ministre de la Santé court après des données. Est-ce que c'est un État moderne, le Québec, où on est encore à l'ère du fax, puis des petites notes sur le coin de la table pour gérer le Québec? Il y a quelque chose de... Mais bon... C'est comme ce matin, là, on l'a un peu plus dans la face.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons de l'état de santé physique des jeunes Québécois. C'est une étude québécoise citée par la presse hier qui montrait assez clairement une baisse d'abord l'activité physique. L'impact, c'est une mauvaise condition physique, puis ultimement, des problèmes de santé qui vont se développer plus jeunes et qui vont s'implanter, je dirais, de façon chronique. J'en parle ce matin avec Isabelle Charest, qui est la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Madame Charest, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourquoi vous pensez, à première vue comme ça, que les jeunes sont moins portés vers le sport, ont de façon générale une moins bonne condition physique?
Mon Dieu, c'est un ensemble de situations qui, tu sais, principalement, c'est le changement de mode de vie qu'on observe depuis une quarantaine d'années, où les gens sont de plus en plus sédentaires, où on se déplace à la voiture, on fait moins de jeux libres et tout ça, donc. L'ensemble de contextes là, qui font que effectivement, on est moins actif qu'on était dans le temps.
En fait, je partage avec vous des questions soulevées par quelqu'un qui a une formation en éducation physique et qui me donne 2-3 exemples, puis je les partage avec vous. Puis je dis pas que c'est la faute du système scolaire, là, comme vous avez raison, là, il y a plusieurs enjeux. Mais par exemple, il dit, il y a une école, les cours sont terminés, il y a un gymnase qui est là, qui existe. Il n'y a pas moyen d'avoir accès au gymnase parce que c'est trop compliqué. Donc, t'as une plateforme de jeu qui est pas disponible. On peut pas jouer au soccer dans la cour d'école parce que il y a des surveillants qui sont absents, puis parce que paraît-il que c'est dangereux. Il y a des enfants qui ont pas le droit de sortir, de monter sur les buts de neige. On a peur que quelqu'un se blesse, qu'il y ait une poursuite. On peut pas jouer de hockey à l'école parce que ça prend un casque avec une grille. Ce que je veux dire, c'est que depuis 30 ans, on a mis comme beaucoup d'obstacles ou appelons ça, de contraintes à la pratique de sport libre.
Ben tout à fait. Puis je pense aussi, comme parents, on n'envoie plus nos enfants à pied à l'école ou en vélo parce qu'on a peur qu'il y ait des accidents et tout. Moi, si je me réfère à quand j'étais jeune, j'allais voir mes amis en vélo, puis je traversais la ville. Puis je pense que on a sur-sécurisé nos enfants par peur justement qu'ils se blessent, peu importe là. Et par contre, je pense que on est dans un tournant, dans un changement de culture, de mentalité, et on préconise davantage des situations pour faire bouger des jeunes, bon, notamment dans les écoles primaires où on a la mesure à l'école on bouge, par exemple, où on fait en sorte que 60 minutes par jour, les enfants ont une opportunité de bouger. Puis ça, dans tous les contextes, on aménage les cours d'école et tout ça. Donc, je pense qu'on est on est allé dans un extrême où on a dit qu'il faut sur-sécuriser puis quasiment emballer nos enfants avec des bulles pour pas qu'ils se blessent là. Puis là, ben je pense qu'on a vu les conséquences de ça, puis on est dans une autre sphère. Mais effectivement, il faut faire en sorte qu'il y ait des aménagements puis qu'on puisse donner des conditions pour que nos enfants bougent.
Est-ce que vous pensez que ça passe par l'augmentation du nombre d'heures consacrées à l'éducation physique?
Je pense qu'il faut offrir une panoplie d'opportunités. Puis il y a une mesure qu'on a mis en place depuis 2019. Évidemment, la pandémie a fait, en fait, j'ai dit 2019, mais c'est plus 2020. La pandémie a fait en sorte que ça a été ralenti. C'est la mesure du parascolaire dans les écoles secondaires où on donne une heure d'activité parascolaire gratuite pour tous les élèves du secondaire. Puis c'est la clientèle qui est la plus ciblée parce que c'est la clientèle qui délaisse le sport, l'activité physique, puis qui, à un moment où on instaure des habitudes de vie, donc c'est vraiment une période très critique. Donc, une heure d'activité physique ou d'activité parascolaire qui, évidemment, fait en sorte qu'on augmente les possibilités que les jeunes puissent être actifs. On leur permet de choisir l'activité qu'ils aiment parce que, tu sais, je pense que, quelque part, les jeunes qui n'aiment pas le sport, à qui on oblige de faire de l'éducation physique à tous les jours, je suis pas sûre que c'est la bonne façon de les stimuler puis de les amener à aimer bouger. Je pense que c'est vraiment d'agir sur l'offre qu'on a d'activités puis que les jeunes vont découvrir ou trouver quelque chose qui leur plaît, qui répond à leurs besoins. D'autres mesures aussi, tu sais, on a le programme Filles Actives qui va rejoindre la clientèle des filles parce que, encore là, c'est aussi une clientèle qui délaisse l'activité physique. Donc, comment on leur donne le goût de bouger, parce que c'est ça la clé du succès, faut instaurer une pratique qu'ils vont pouvoir garder pour le restant de leur jour.
Et vous avez une expérience très concrète, là, je vous cite, j'ai une fille qui a 13 ans, il faut que je pousse très, très fort, c'est aussi le rôle des parents, elle n'a pas le réflexe d'aller bouger.
Oui, absolument.
Vous devez la brasser pour qu'elle bouge.
Je dois la brasser pour qu'elle bouge. Puis, tu sais, c'est quand même la fille d'une Olympienne puis d'un joueur de football professionnel. Puis, elle, spontanément, elle n'aime pas ça. Elle n'est pas... c'est pas une fille active. Donc, je marche avec elle pour aller à l'école. Puis je le fais avec elle parce que je sais qu'elle chiale tous les matins quand on y va puis qu'elle aime pas ça. Mais, tu sais, il faut que je la pousse. Puis, il faut que je lui donne le goût. Puis, que je lui donne différentes possibilités puis opportunités de bouger. Puis, à un moment donné, elle va le découvrir. Puis, tu sais, elle joue au soccer le thé. Puis, elle fait de la danse et tout ça. Mais... Il faut que je la pousse constamment pour la faire bouger.
Et c'est pas juste le rôle de l'État. Souvent, là, on a une tendance à se tourner vers le gouvernement puis vers les centres de services scolaires, mais à la base, il y a une responsabilité de parents surtout, là.
Ben, en fait, c'est un ensemble de responsables. Puis je pense que l'État, oui, on a un rôle à jouer parce que il faut justement mettre en place des mesures puis
des infrastructures, là, ouais.
Des infrastructures puis des ressources. Puis tu sais, on a un gros rôle à jouer, mais effectivement, comme parents aussi, on a un rôle à jouer. Puis c'est tantôt on parlait, tu sais, maintenant les parents vont reconduire leurs enfants à l'école, ils sont à 1 kilomètre, tu sais, ils ne sont pas admissibles à l'autobus scolaire parce que c'est pas assez loin, mais les parents vont aller reconduire les enfants à l'école pour sauver du temps puis tout ça, puis tu sais, ça convient à tout le monde, là, puis ça fait l'affaire de tout le monde parce qu'on a plus de temps pour faire nos choses, là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi se donner un petit coup de pied dans le derrière puis dire ben c'est notre santé qui est en jeu, c'est la santé de nos enfants, donc il faut s'activer puis il faut se donner les moyens pour bouger.
Merci Madame Charest, bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Isabelle Charest, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air.
L'essentiel de Paul Arcand.
L'autre dossier est ben important aussi. Action collective déposée contre le jeu Fortnite. C'est un jeu conçu par Epic Games et il y a une autorisation de la Cour supérieure pour une action collective. C'est important, ce sont des parents qui représentent des mineurs et qui sont, selon la preuve qui sera faite, devenus comme accros et dépendants au jeu. C'est quand même pas rien. Et dans les documents, on compare même cette dépendance à quelqu'un qui a une dépendance avec le tabac ou certaines drogues plus dures. Maître Jean-Philippe Caron est avec nous. Il est avocat, un de ceux qui est dans le dossier. Il est du bureau Calex Légal. Maître Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, je veux bien comprendre, là, si vous aviez à me décrire la cause comme telle, ce sont des parents là, qui demandent ce recours-là au nom de leurs enfants.
Oui, on en avait parlé ensemble en 2019 suite au dépôt et on a finalement eu le jugement d'autorisation hier. Donc, dans le fond, on est venu définir le premier groupe qui est le groupe de dépendance, c'est-à-dire une perte de contrôle ayant eu des répercussions dommageables sur des activités personnelles, familiales, sociales, éducatives ou professionnelles, des baisses de notes à l'école, des comportements plus agressifs. Donc ça, c'est ce groupe-là, mais faut aussi dire qu'il y a un deuxième groupe qui a été autorisé qui, lui, concerne les mineurs qui ont fait des transactions en V-Box. Et on recherche l'annulation de ces transactions-là sur la base de la lésion.
En quoi le jeu peut être tenu responsable d'un jeune qui se lave pas, qui mange pas, qui va pas à l'école ou qui a des difficultés à l'école? C'est quoi le lien entre ce jeu-là et le changement dans les habitudes de vie?
Ben, dans le fond, monsieur Arcand, tous les jeunes qui sont concernés dans ce dossier-là n'avaient jamais eu de problématiques liées aux jeux vidéo avant de jouer au jeu Fortnite. Le dossier est basé, dans le fond, sur l'obligation d'information d'un fabricant d'un produit qui a l'obligation de divulguer tous les risques inhérents à l'utilisation du dit produit. Donc, le dossier est calqué, les questions communes sont les mêmes que très similaires aux questions communes qui ont été entendues dans le cadre de l'action collective du tabac. Donc, pour nous, et je vous le dis, là, je sais qu'il y a plusieurs de vos auditeurs qui vont se sentir visés, qui vivent cette problématique-là à la maison, où leur enfant a connu des problématiques au niveau des notes à l'école, des activités sociales, une augmentation de la frustration ou de la colère. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le jeu, peut-être le fait involontairement, mais il en demeure pas moins que le jeu est responsable des préjudices et des dommages qui découlent de son utilisation.
OK, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que ce jeu-là a été conçu pour créer une dépendance? Puis si vous faites le comparatif avec l'industrie du tabac, l'industrie savait depuis longtemps qu'il y avait une dépendance par les différentes composantes chimiques, bon, la nicotine et tout ça. Ils ont nié pendant des dizaines d'années leur responsabilité. Mais est-ce que selon vous, c'est un jeu qui a été concocté pour rendre les kids dépendants?
Que ça a été pour rendre les kids dépendants ou que le résultat a été que les kids sont devenus dépendants, ça arrive au même résultat dans le cadre de cette action collective-là. Ce qu'on dit, M. Arcand, c'est que le jeu cause un risque d'addiction. C'est la maladie, le trouble d'addiction du jeu vidéo est une maladie qui est en recherche par l'OMS depuis 2019. Et comme dans le cas du tabac, les compagnies de jeux vidéo ont consacré des sommes significatives à pousser un lobby qui disait non, nos jeux ne sont pas addictifs, ils sont engageants. Donc pour nous, on voit des grandes similarités entre les deux. Puis on est effectivement très content de la décision qui a été rendue par la Cour supérieure.
OK. Diriez-vous que Fortnite est le meilleur exemple, parce que c'est pas le seul jeu là, qui existe, évidemment, il y en a d'autres, puis il y en a d'autres qui sont accros à d'autres types de jeux, mais que Fortnite réunit tous les ingrédients?
C'est le design, monsieur Arcand. Tout dans le jeu est design d'une manière à favoriser le jeu. Il faut comprendre que les enfants, le cortex préfrontal qui est responsable dans le cerveau du contrôle sur le jeu se développe jusqu'à 21 ans. Donc, si on a un design qui est extrêmement addictif, qui favorise l'engagement, ben ça peut mener à une perte de contrôle sur le jeu. Et c'est le troisième représentant, le cas personnel de ARG, on parle d'un enfant de 15 ans qui a dépensé 6 000 $ dans ce jeu-là. Et lorsque confronté par ses parents avaient mis une partie de ses sommes pour ses études dans son compte de banque, il l'a tout dépensé. Puis, à la suite, on est arrivé à la banque, il pensait que c'était une fraude. Puis là, le jeune a finalement sorti la vérité, puis il a été diagnostiqué avec une cyberdépendance, il a suivi une thérapie, puis il n'est pas seul. Puis c'est ça que je veux dire aux parents aujourd'hui qui se sentent concernés. Nous, on est en train de bâtir une banque de données, donc si vous vous sentez visé par cette situation-là, vous pourriez être membre de l'action collective. Je vous invite à contacter à travers notre site Internet pour nous envoyer vos coordonnées au calexboutique.com dans la section action collective et on va contacter chacun d'entre vous au courant des prochains mois.
Mais je regardais les cas là, qui servent là, d'exemple pour le recours. Là. Un jeune qui a joué 6 923 parties pour à peu près 60 000 minutes de jeu, 42 jours complets. C'est non-stop.
Ben, c'est un peu le point. C'est qu'à un moment donné, c'est le jeu est désigné, le design du jeu, le UX qu'on appelle en termes techniques, là, est désigné pour toujours te faire vouloir continuer à jouer.
Parfait, merci beaucoup. Oui.
Ben, j'allais juste conclure en disant aussi le deuxième volet, là, tout ce qui est acheté dans ce jeu-là n'apporte aucun avantage compétitif pour le jeune. Donc, c'est littéralement rien qui est acheté, d'où le volet lésion en disant, vu la situation financière d'un jeune, de mettre 5 000 $, ce qui représente presque 100% de son patrimoine dans ce jeu-là, ben c'est une disproportion par rapport à ce que tu obtiens en retour. Et ce volet-là est super intéressant également. Là.
Merci, Maître Caron. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Maître Jean-Philippe Caron, qui est l'avocat impliqué dans ce dossier, cette action collective contre le jeu Fortnite.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler des enfants de la DPJ, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand la DPJ entre dans notre vie, ben ça peut bien se passer. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, il y a beaucoup de changements dans la vie. Mais arrive à un moment où, à l'âge adulte, à 18 ans, prête, pas prête, il faut que tu te prennes en main. Puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Je vous présente Christina, qui aujourd'hui a 23 ans. Et dès que je dirais qu'elle était très, très jeune, elle s'est retrouvée donc sous la supervision de la DPJ. Christina, bonjour.
Bonjour.
Raconte-nous un peu ta vie. T'avais quel âge quand la DPJ a débarqué?
J'avais environ 3 ans. C'est être entré dans ma vie un peu plus tôt que 3 ans. J'ai eu mon grand-père qui s'est occupé de moi, puis j'ai fait quelques familles d'accueil.
Quand tu dis quelques familles, là, c'est plusieurs ou
Ben c'était souvent la même que ça. Je switchais entre chez mes grands-parents et là pour donner un répit à mes grands-parents aussi. Mais à l'âge de 3 ans, c'est là que j'ai trouvé ma famille pour la vie.
Ok. Raconte-nous comment t'as trouvé cette famille-là, puis comment cette famille était celle-là qui t'a accompagné tout le temps.
Cette famille-là est vraiment, c'est vraiment une bonne famille. Des parents aimants qui étaient pas capables d'avoir d'enfants, donc ils ont préféré adopter. Puis ils m'ont vraiment donné la chance de me placer, d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir avoir un encadrement, puis être bien, bien structuré pour reprendre ma vie en main.
As-tu des souvenirs quand t'avais 1 an, 2 ans?
Non.
T'as aucun souvenir de ça? Puis pourquoi tes parents ont perdu la garde?
Parce qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper d'eux autres mêmes. Puis c'était difficile de s'occuper d'eux autres mêmes. Donc, s'occuper de leurs enfants, c'était difficile aussi.
OK. Je reviens donc à cette famille qui s'est occupée de toi. Puis cette famille-là, là, vraiment t'a accompagné là, dès ton jeune âge puis la période d'adolescence. Ils ont toujours été présents, là. Quand t'arrives à 18 ans, qu'est-ce qui se passe?
J'aurais pu rester avec eux, mais moi je me sentais prête à partir puis découvrir la vie. Donc je suis partie, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes expériences puis
parle-moi de tes erreurs puis tes expériences. Qu'est-ce que tu as découvert à 18 ans?
Je me cherchais beaucoup. Je me cherchais vraiment beaucoup, je cherchais la personne que j'étais. Puis avec les expériences de la vie, avec du travail sur moi-même, j'ai découvert un peu plus qui j'étais, j'ai approfondi mes passions. J'ai vraiment découvert dans quel métier je voulais travailler aussi.
C'est quoi?
Éducatrice en garderie.
Ah oui?
Oui.
As-tu des moments difficiles à 18 ans, disons là, de se retrouver, entre guillemets, responsable de soi-même?
Oui, oui, ça n'a pas été facile, mais...
Qu'est-ce qui était difficile?
Vraiment comme de... Quand on arrive à l'âge adulte, tu sais, d'arriver en appartement, de devoir se prendre en main toute seule, devoir faire ses choses, devoir payer ses choses toute seule aussi. Quand on est chez nos parents, souvent c'est plus simple, on a moins de choses à payer. Donc c'est sûr que ça a été plus difficile, mais aujourd'hui ça va bien.
Ça va bien parce que t'as demandé de l'aide, t'as demandé oui. des ressources, puis parce que t'as vécu ce qu'on appelle de l'instabilité là, au chapitre de l'habitation. Là.
Oui.
T'es ramassé un peu dans la rue.
Sans domicile fixe, passer d'une personne à l'autre, qui pouvait me prendre quelques jours, quelques semaines.
Puis après ça, on recommençait à chercher?
Oui.
Dormir dehors?
Non, ça, j'ai pas passé par là.
T'es pas passé par là.
Mais de l'itinérance cachée, passer d'une personne à l'autre sans avoir de domicile fixe, ça oui.
Ça s'est stabilisé quand?
Ça s'est stabilisé vraiment quand je suis arrivée à ma ressource.
Qui est la maison tangente.
Oui.
Parle-moi de la maison tangente, parce que là, c'est une ressource qui t'a aidé, mais qui peut peut-être aider d'autres qui écoutent ce matin. Là.
Oui. La maison tangente, c'est un organisme qui aide les jeunes en difficulté, qui les intervenants sont vraiment comme une famille pour certaines personnes qui n'ont plus de contact avec leur famille, qui n'ont plus de famille du tout. Donc, ça peut être une première famille pour eux, sinon ça devient une deuxième famille pour certains aussi. On est très proche des intervenants aussi. Les intervenants, ils ont une bonne approche avec nous aussi. Ils savent comment nous aider aussi avec les démarches et tout ça. Si on a besoin de quoi que ce soit, on peut aller les voir. Si on a besoin de parler aussi, on peut aller les voir. Ils sont vraiment d'une grande aide. Puis ils sont précieux.
Ils sont précieux?
Oui.
Je parle de cette ressource, puis j'en parle avec Christina, parce que, puis c'est le temps de donner un coup de main, la maison tangente, il y a une cueillette de manteaux d'hiver. On connaît ça, nous autres, les manteaux d'hiver, ici. De tuques et de mitaines et de cartes d'épicerie pour des jeunes, un peu comme Christina, de 18 à 25 ans, qui vivent l'itinérance. Donc, et ça se passe demain, de 9h à 18h, et vous pouvez aller déposer vos dons à deux endroits, deux Vitroplus. Un sur la rue Hochelaga, à Montréal, et l'autre sur la rue Lionel-Boulet, à Varennes. Si tu avais à résumer pour les auditeurs, là, comment cette maison-là a changé ta vie, en quelques mots?
Cette maison-là m'a aidé aussi à pouvoir continuer ma scolarité, continuer faire la formation d'aide éducatrice avec le Chic Resto Pop. Puis ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a vraiment permis, tu sais, même si j'avais pas terminé mon secondaire, que j'avais pas été au cégep faire ma technique, que je pouvais déjà entrer dans le métier. Puis ils ont vraiment changé ma vie.
Ça va bien aujourd'hui?
Oui.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup.
Christina, qui a eu un parcours pas nécessairement simple, puis je rappelle pour les gens qui veulent l'aider, là, c'est le temps des fêtes, mais c'est bon en tout temps. La maison tangente, il y a deux endroits là pour les dons. Je le rappelle, Vitroplus, rue Hochelaga, Montréal, et Lionel Leboulet à Varennes.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.